Bakary Sangaré, vous jouez le rôle de papa dans la pièce de Marie-Anne Diaye. Mm-hmm. C'est un personnage assez ambigu, qui est à la fois très peu moral et en même temps qui est le personnage le plus séduisant de la pièce, non ? Comment, à mon sens, comment vous l'analysez et comment avez-vous préparé le rôle de papa ?
Alors, moi, j'ai lu la pièce, je crois que je l'ai lu d'un trait. Et puis, on m'a demandé de la lire, de dire un peu mes impressions, mes sensations, qu'est-ce que je pense de cette pièce et tout. Et j'ai trouvé que l'écriture était magnifique, spontanée, directe, style direct. Et puis, c'est ça, des allures littéraires très bien écrites. C'est très facile d'accès en même temps. Ça peut être le langage de tous les jours. Bon, j'ai fini en me disant, ah, elle s'est lâchée. Et je me suis permis de dire même, par rapport à l'âge de l'écrivain, je sens une certaine jeunesse là-dedans. Elle a aujourd'hui 35 ans, je crois. La pièce a été écrite il y a une dizaine d'années. Donc, voilà, ça nous ramène à quoi? Il y a un truc qui...
Oui, donc, vous parliez du texte, vous sentiez une fraîcheur.
Une fraîcheur, une vérité aussi, et puis une jeunesse. Et donc, le personnage de papa m'apparaissait comme, j'allais dire, essentiel. C'est-à-dire, quelqu'un qui part avec pas beaucoup de moyens. Finalement, il n'a rien, matériellement, il est pauvre. Mais il a les mots. Il a les mots comme jouet. Il s'amuse avec rien. Et puis, même s'il n'a que des pâtes de fruits, il va les appeler des pâtes de fruits de très grand luxe. Vous vous rendez compte, ma fille, que ces pâtes de fruits viennent de Roissy, d'un duty free. Bon. Et nous sommes dans le fabuleux. Nous sommes dans, même si quelque part il essaye de bâtir un monde d'illusions, qu'il essaye de se mettre au sommet d'une montagne de mensonges pour régner, ces mots, cette facilité, cette fascination qu'il a, qu'il prend un mot, qui c'est par exemple le fait de dire je suis papa, c'est pas rien pour lui. Et avec ça, il séduit sa fille qu'il n'a pas vue depuis 10 ans et qui pratiquement ne connaît pas ce personnage, parce que c'est quoi? C'est simplement qu'un jour, et cet homme qui débarque ici, un Africain, et il rencontre une Française, il lui fait 2 enfants, il disparaît. 10 ans passent, on frappe à la porte. La fille, une des 2 filles, la plus grande, ouvre. Magnifique fille. Et il lui dit, papa est revenu. Et donc, même ce coup de théâtre, c'est fascinant. Et papa, le personnage est fait de ça, pétri de surprises. Et il va de surprise en surprise jusqu'à, de ses 35 ans, on pourrait dire, jusqu'à 70 ans. Et on le retrouve à beaucoup de tranches de sa vie. Et le fait qu'il ait chaque fois plus d'un tour dans son sac, c'est ça qui est séduisant. Et c'est ça qui, moi, m'a permis, je crois, de le suivre. Et en même temps, il faut dire que il a quand même un côté, je manque pas d'air. Il a beaucoup de culot, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est culotté, il est, entre guillemets, on pourrait dire que c'est un salaud. Sauf que ça paraît être un beau salaud en même temps, parce que, c'est quelqu'un qui est profondément vrai. Même quand il ment,
ouais,
à un moment donné, il avoue tout. Il dit, voilà, moi je fais ça, mais s'il y a quelqu'un qui a besoin aujourd'hui qu'on le sauve, c'est bien moi aussi. Et enfin,
Il fait l'acteur, non? C'est un acteur, non?
En tout cas, il sait jouer.
Il fait un numéro, il sait jouer.
Il sait jouer avec les mots, il sait jouer avec rien. Il dit qu'il domine parce qu'il a réussi. Mais il dominerait en n'ayant rien, ce serait la même chose. Pourquoi? Parce que il dit qu'il s'appelle papa et que papa ne vieillit jamais. Une fois qu'on est, comme si il disait, je peux être du fumier, je peux être un bon à rien, mais j'ai deux magnifiques filles. Et voyez-vous, de belles plantes peuvent sortir aussi ou surgir du fumier. Et c'est ça, papa. Vous allez dire que je sers à rien, que je mens, que je trompe, que je dupe, que je lèse d'autres, que je ne suis jamais là. Et pourtant, je suis vivant. Et j'ai de la tendresse pour une femme, même si je mens comme un arracheur des dents. Et c'est vrai, et je ne m'en cache pas. Ce qui fait que on arrive à le suivre. Ce qui fait que il récupère des allures d'humanité. Et je crois que c'est ça qui, moi, m'a touché. Que, quelque part, il n'est pas simplement que Ulysse sur l'île de Nausicaa. Il n'est pas beau, il n'est pas pétrique de bravoure, de beauté, mais il a tous les mensonges et les petitesses, c'est comme un donné à voir que nous pouvons avoir, nous, on n'est pas que bon. Et des fois aussi, c'est bien de montrer tout ce côté humain qu'on a, qu'on est simplement jamais au-dessus du lot. On est des êtres humains qui vivent avec leur bassesse, leur petitesse, et qu'on essaye tous les jours simplement d'améliorer l'ordinaire. Et pour moi, c'est ça, papa. Et c'est ça qui m'a touché en lui. Et que, il y a des salauds qui s'avouent jamais, ni vaincus, ni salauds. Et lui, il s'avoue. Lui, il dit, je le suis. Mais c'est comme ça. Et j'ai une fille qui est formidable, même si je l'aime pas autant que je devrais l'aimer. Et si on dirait, il a raté sa famille. Et le fait d'avouer, n'était pas beau d'avouer les choses. Voilà, c'est le fait de ce paramètre-là qui, moi, m'interpelle parce que je...
Et c'est comme ça que vous avez travaillé.
Et c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre ce personnage. Et puis, beaucoup aidé, évidemment, par le metteur en scène qui est très fort, très méticuleux, très... Et il sait où il va, il comprend les mots de Marine Jai pour avoir travaillé beaucoup de fois sur ces textes déjà. Et donc, il en connaît le style. Comme, vous savez, c'est souvent curieux, c'est comme des enfants qui s'amusent et ils savent toujours où est caché l'autre, même s'il dit pas. Et donc, ce metteur en scène, c'est comme ça par rapport à ces textes-là de Marija. Et c'est bien agréable parce que, on part avec une base de confiance qu'on s'est perdu. Pertinemment, lui sait où il va et il va trouver les mots justes pour te cadrer, pour élaguer certains pépins que tu as ou blocages, et il est toujours là et présent et voilà. Donc
il a une direction d'acteur qui rassure,
ouais. Qui est très très fort, oui. Et donc voilà un peu comment avec les camarades aussi. Faut dire que je suis tombé sur un merveilleux groupe aussi de comédiens de la comédie française qui sont très à l'écoute, très simples, qui veulent simplement que l'histoire marche. Et ça donne ça dégage une atmosphère où chacun dans son rôle ou dans ce qu'il a à faire donne ça comme un autre pan de l'histoire, pour que tous ensemble, on puisse raconter la même histoire, et sans complication. Et c'est très, voilà, c'est vraiment avec tout le monde comme ça que, donc, a surgi ce truc, ce personnage-là, et ce spectacle qui est très, très agréable à jouer.
J'ai une question, justement, qui concerne je ne sais pas bien comment la formuler, mais André Engel me disait que avant de finalement travailler avec vous, il avait auditionné plusieurs comédiens noirs qui étaient choqués par le personnage.
Ah bon?
Par la manière, oui, par le personnage, c'est-à-dire le fait qu'il n'ait pas le beau rôle, qu'il soit, comme vous dites, un salaud, enfin bon.
Oui.
Voilà.
Et donc, c'est important. Oui. Oui.
Ces comédiens ne étaient choqués par ça, ne pouvaient pas porter cette parole-là.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh, moi, chacun a sa sensibilité. Moi, à vrai dire, je ne réagis pas comme ça. Parce que, comme je viens de dire, je pense que nous ne sommes pas pétris que de qualité. Et que, quelquefois, avoir le courage de dire et de dénoncer aussi nos petitesses, nos bassesses, c'est ce qui prime pour moi. C'est pas le beau rôle qui prime pour moi. Et alors, l'histoire, même pour moi, du monde, c'est fait des choses dures, très très dures. Des fois, ça va jusqu'à des ravages humains. Et il faut souvent, comment dire, mettre tout à plat pour essayer de partir de plus belle. Pour moi, il n'y a jamais de beau rôle dans ce sens-là. Il y a simplement à travailler et à travailler sur l'esprit humain, si je peux m'exprimer ainsi, tout en sachant très bien qu'elle va être très difficile à refaire, refaire le monde, quel programme, mais quand même ne pas essayer, ne pas rester vigilant, ne pas justement comprendre qu'on peut être salaud, ne pas comprendre qu'on peut faire deux enfants avec une femme et laisser ces deux enfants-là et partir dans la nature comme si ce n'était rien et revenir mentir comme un arracheur des dents, essayer de faire avaler la pilule à cette femme pour revenir dans son monde et repartir encore parce que on est appelé par d'autres choses. Vous savez, c'est pour ainsi dire, c'est pas un beau rôle, mais en même temps ça montre combien c'est important. Et c'est pas parce que on est noir ou qu'on est blanc, pour moi, qu'on réussit à être un bon père de famille. Non. Et donc c'est valable pour tout le monde, sauf que simplement ce jour-là ou cette fois-là, papa est noir. Et peut-être que le fait qu'il soit noir, il avait une histoire du coup et qu'il vienne d'Afrique, peut-être qu'il avait une histoire avant avec la France et que maintenant le rapprochement est tel que, partant de cette histoire-là, il y a un monde à bâtir, il y a un futur possible. Il y a ses enfants qui sont le prolongement de la vie de papa ou qu'il a aidé. Et que si sa fille Mina se sauve ou sauve deux trois trucs ou vit et brasse avec la société d'ici, alors et le métissage, ça se fait pas. Ça ouvre sur des choses magnifiques après. Et c'est aux hommes, à mon avis, c'est comme des relais. C'est à chacun de passer le témoin et peut-être j'allais dire de la plus belle manière qui soit pour que ceux qui viennent après puissent savoir d'où on vient. Et c'est important pour essayer à leur niveau de bâtir quelque chose de mieux. Si papa est ça, peut-être que ses enfants seront pas forcément ça. Je pense plutôt à des choses comme ça et je ne me limite pas au fait qu'un rôle, que ce soit le beau rôle et un colosse qui vient, qui casse tout parce qu'il est révolutionnaire et qu'il est beau et qu'il a ceci et que cela. Non. Celui-là aussi peut être absolument révolutionnaire parce qu'il est tout simplement humain avec ses qualités et ses défauts et que, donner à voir les choses ne me font pas peur. Non. Mais ils mettent tout à plat et il se trouve que, au passage, papa peut être est salaud. Et alors, c'est pas donné, hein. On est tous des humains. À un moment donné, et on essaie simplement de s'améliorer. Et si ceux qui voient, si deux, trois personnes qui voient se disent, ah, moi je vais essayer de faire autrement. hein, de pas passer par le chemin de ce personnage-là. C'est beau. Moi, je préfère les choses crues, drues, vraies. Et voilà, ça me, voilà, les choses qui sont cachées, qui sont douloureuses à montrer, et qui sont des faiblesses, et qui sont des petitesses. Je préfère montrer ces choses-là aussi. C'est, voilà. C'est parce que je suis pas un surhomme, je suis pas, hein, et puis le personnage pour moi c'est ça aussi, c'est pas un inhumain, surhumain, hors norme, c'est un homme. Et il a peut-être ses raisons d'être passé par ce chemin-là. Et je ne suis pas sûr qu'il soit raté. Et ce qui me fait dire ça, c'est et pourquoi il reste profondément attachant. Voilà. Lui aussi, il vient.
Plus que ça, non.
Voilà.
Très séduisant, enfin très. Maman d'ailleurs reste très amoureuse de lui.
Oui, c'est un amour déraisonnable, mais qui peut arracher à maman la liberté d'aimer cet homme-là. Hein, que du haut de sa montagne d'illusions et de mensonges, il y a une femme qui est profondément amoureuse de cet homme-là. Et que et c'est comme ça, ça ne s'explique pas. Et que quelque part, elle comprend, elle dépasse beaucoup de choses. Et que cette toile de fond qui reste l'amour, et, voilà, c'est le lot des humains. Et c'est ça qui... quand on fera les guerres, tout ce qu'il y a comme destruction, l'amour peut-être construira après tout ça. Et c'est ça qui est utile dans ce personnage. Et c'est ça qui, moi, m'a séduit. Voilà, qu'au-delà de la pourriture de cet homme ou au-delà
de la société
dans laquelle il brasse, il vit, eh bien, il y a l'amour et qui continuellement ou perpétuellement demeurera ce qui sera le contraire de la mort. Alors, je le vois pas forcément tout simplement anti-euro. Voilà.
Il y a quelque chose dans cette humanité profonde de cette pièce, il y a quelque chose de très politique, à mon sens, et dans ce que ça raconte, et aussi dans le fait que, tout d'un coup, quand on regarde cette pièce à la Comédie Française, on se rend compte qu'on est en 2003, et on se dit, Bakary Sangaré est le premier acteur noir à intégrer la troupe de la Comédie Française. Et c'est quelque chose de très violent, je trouve, tout d'un coup de réaliser ça. Avant vous, il n'y a pas eu d'acteur noir à la Comédie Française. Qu'est-ce que vous en pensez?
Peut-être moi, ma réponse peut paraître banale, peut-être, mais c'était d'abord et avant tout pour moi du travail. C'était du travail. Après, le destin s'est glissé dans le travail. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est qu'à un moment donné, André Engel veuille monter cette pièce et que, à ce moment-là, il se trouve que moi, je sois libre de tout engagement. Et que j'avais une forte envie de travailler avec cet homme-là, et que le projet artistique me plaisait beaucoup. Alors, le directeur de la Comédie Française, Monsieur Marcel Bozonnet, me téléphone un jour et il me propose la pièce à lire et de lui dire après ce que j'en pense. Je le lis d'un trait comme j'ai expliqué et je lui dis que c'est formidable. Moi, je n'ai pas eu vraiment tous ces questionnements par rapport au fait que papa soit laid et anti-héros, donc voilà, et il n'est pas bon à jouer, non. Moi, j'ai pris ça bien plus tôt. J'ai préféré un anti-héros, quelqu'un de profondément pauvre, mais d'intérieurement en lui profondément riche, qui arrive avec des bulldozers dans un lieu pour tout saccager. Et que tout à coup, il découvre l'amour en une femme. Peu importe après le traitement, mais que à la place donc des coups de canon, il se passe un truc étrange. que personne ne pourrait définir vraiment. Ce truc, l'amour. Mmh. Et que de là naissent deux enfants, de magnifiques filles, qui vont continuer après, dans cette société, que lui, il s'est dit, non, cette société, peut-être veut pas forcément de moi. Ou que cette société veut dire, cet homme-là, ou cette couleur-là, nous n'en voulons pas forcément. Eh bien, et que de ce, voilà, de ce anti-anti et de toutes ces contradictions, naissent la vie. C'est merveilleux. C'est extraordinaire. Ça, le destin. Ça qui m'a fait accrocher, qui m'a fait dire, moi... pour pouvoir avoir pour pouvoir jouer comme tout le monde et faire partie de la troupe, tout simplement. Donc vient quelque chose qui pour moi n'était pas du tout dans mes plans. Quand je voilà, quand je suis arrivé ici et que j'ai fait l'école l'école nationale de voilà de théâtre, c'est-à-dire s'appelait l'école de la, communément appelée l'école de la rue Blanche, l'ENSAT, mmh. qui est maintenant domiciliée à Lyon. Mmh. Et donc, ben, dans les années 86, 7, 8, par là. Ah, et donc, j'avais eu, d'ailleurs, et quelle coïncidence, j'avais vu pour la première fois Monsieur Marcel Bozonnet, là, l'actuel directeur d'ici, de la Comédie Française. Et il était, il dispensait des cours d'art dramatique là-bas. Il était professeur, donc. Et j'ai eu la chance de travailler sur le Graal Théâtre avec lui, sous sa direction. Oui. Voilà. Et donc, il m'appelle, il me propose de venir donc dans la troupe, de faire partie. Ah, il se trouve que quelque part, mon éducation, j'allais dire entre guillemets, mon éducation théâtrale ne, hein, m'avait donné d'autres directions, d'autres routines à moi, d'autres façons de penser, modeler des choses, enfin, m'avait modélé en ce sens que je croyais pas du tout que je puisse faire bon ménage avec la troupe de la Comédie Française. Que venir ici, pour moi, ça faisait tellement pas partie de mes plans que j'ai eu peur, tout simplement. Oui. Voilà, et je me suis dit, non, c'est pas pour moi. J'ai jamais rêvé venir là. Je fais mes petites choses à gauche, à droite, je rencontre des metteurs en scène, voilà, et puis ça se construit comme ça pour moi. Et
vous avez beaucoup travaillé avec Peter
Brook. Voilà, donc... c'est pas conventionnel, c'est pas les formes traditionnelles forcément. C'est, mais alors attention, si c'est pas ça, il y a un profond respect en même temps pour les sacrés, pour les choses, pour le mystère, pour l'esprit. Alors et du coup, l'esprit comment me rapprochait en même temps de cette maison où j'avais mes préjugés. Par rapport à cette maison ici, j'avais mes préjugés, qui jouaient d'une certaine façon, que on ne jouait pas, quand on était à la Comédie Française, on avait une façon de jouer qui n'était pas la même qu'ailleurs, et que c'était précieux, que c'était précis, que c'était de l'institution, que c'était lourd, que ça faisait peur, etc., etc. Bon. Mais en même temps, je me suis dit, à un moment donné, après avoir rencontré le directeur, je me suis dit, ah oui, en effet, et si ce n'était que du théâtre, après tout. Et que, justement, tous ces grands écrivains, quand ils ont écrit des rôles, ben forcément, c'est, sur du papier, c'est aussi immatériel. Ce n'est pas dans des couleurs de corps ou de peau ou de... C'est... l'aventure humaine, l'esprit, beaucoup d'esprit, c'est comme la lune, c'est comme les étoiles, et ça brille pour tout le monde, ces œuvres-là. Et pas que pour une seule personne. On dit bien que l'œuvre d'art n'est d'aucun pays, d'aucune époque. Et alors, si c'était ça, une... Et du coup, j'ai commencé à revoir ma position, et à me dire aussi, et si ailleurs s'installaient aussi d'autres routines, que moi-même je ne soupçonne pas. Et qu'à force de parler de préjugés, je m'emprisonnais moi-même dans des considérations qui vaillent pas, puisque si on me donne ce personnage de papa à incarner ou à approcher ou à comprendre, j'aurais peut-être les mêmes difficultés que si je jouais chez un Peter Brook aussi. Ou si je jouais ailleurs, ou si moi-même je prenais un texte et que j'essayais de l'adapter à ma façon de raconter des histoires pour pouvoir l'offrir à un public. Les mêmes difficultés surgiront et il va falloir les répondre. Et là, je retombe sur mes pieds. Donc là-bas, j'irai aussi et ça sera du théâtre. Et quelque part, c'est simplement peut-être la forme qui change, c'est d'autres gens que je vais rencontrer, c'est d'autres univers. Ce risque-là, il fallait le prendre. Et voilà, quand je dis le destin s'est glissé, au début de... Je parle trop, mais quand je dis le destin s'est glissé un peu là-dedans, c'est que ça coïncide peut-être avec le fait que, avant, il n'y a pas eu un noir qui soit pensionnaire ici, comme ça. Bon, ça c'est un coup de destin peut-être, mais à l'origine et au départ, il y a le travail, formidable projet de théâtre, et j'ai voulu participer à ça. Et après, c'est venu les autres...
Dire que c'est rétrospectivement que ça devient symbolique, c'est ça?
Ça devient symbolique dans la mesure où ça s'est pas fait et quelque part je n'y peux rien. Ça c'est un côté destin. Mais le fait d'arriver ici, c'est un projet de mise en scène, de théâtre, de artistique qui me plaît beaucoup. Une pièce que je trouve formidable. Et je me dis, oui, si ça m'était donné de jouer ça, je le ferais. Et quand il a fait ses... après venir ici, j'ai tiqué avant, mais ça faisait partie du théâtre, il fallait le faire. Et du coup, il se trouve que et c'est la première fois que aussi on... Les esprits s'ouvrent, que la maison... Que la maison accueille un acteur noir et qu'il soit pensionnaire. Bon, ça vient pour moi. En plus, le travail prime. Voilà. Et je n'ai rien eu que par le travail. C'est pour ça que j'arrive pas à parler que de l'événement. Pourquoi? Parce que...
On m'a beaucoup posé cette question, non?
Cela dit, on m'a beaucoup posé cette question. C'est pas grave. Mais j'ai beaucoup eu du travail. Et rien que par le travail. C'est-à-dire, quand je vais à Rue Blanche, je ferme les yeux, je travaille comme... avec...
Vous étiez où avant la Rue Blanche?
Avant, j'étais au Mali. J'étais dans mon pays. Je suis malien, j'étais au Mali et j'ai fait une école de théâtre là-bas qui s'appelle l'Institut National des Arts à Bamako, la capitale du Mali. Et puis, j'ai bénéficié d'une bourse pour m'encourager. À l'époque, déjà, il y avait des professeurs qui se sont dit, tiens, celui-là, si on l'encourageait, peut-être il aura d'autres informations en la matière. Et il faut peut-être l'encourager. On m'a envoyé ici, du coup, j'ai passé le concours de Rue Blanche. Et quand j'ai été reçu, j'ai travaillé avec les camarades de classe. Pour moi, c'était comme une société en miniature déjà. Et j'écoutais beaucoup. Et j'apprenais beaucoup de mes camarades de classe qui venaient tous d'ici ou qui étaient nés ici, avaient grandi ici. Et donc, je me faisais l'oreille. Pour moi, c'était comme si je prenais le pouls un peu de la société. Et bien, et après, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer Peter. Pareil, j'ai travaillé aussi en ne me posant pas beaucoup de questions. Et quand est arrivée cette autre proposition, c'est pareil. À l'origine, c'était du théâtre. Voilà, le travail, donc, et rien que le travail. Maintenant, on l'a eu, voilà, après, il y a le fait que ça ne s'était pas fait avant. Et ça, que voulez-vous, je ne peux pas, j'aurais jamais pu le créer moi-même. Voilà. Donc, j'appelle ça le destin qui s'est glissé dans quelque chose. Mais à l'origine, moi, je viens là pour le travail et pour... Et quand je peux avoir à jouer ou à travailler, je me donne entièrement. Et après, je me dis, si ça se passe très bien, ben, quelqu'un d'autre me proposera aussi peut-être du travail, puisque il y a eu avant une première proposition et que ça a valu la peine. Mmh. Alors pourquoi pas continuer, pourquoi que j'aurais pas d'autres ouvertures par rapport à ça.
Et justement, maintenant, est-ce que vous avez des projets là, ou est-ce que vous avez des désirs, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il y a des...
Maintenant, je vais travailler. De toute façon, papa doit manger. Il se trouve que ça marche. Je suis très content. Donc, parce que le public aime ça, parce que donc, vous savez, c'est une belle réponse. Il n'y a pas meilleure réponse que ça. Et que donc, peut-être. L'année prochaine, on m'a fait comprendre que l'année prochaine, il y a une reprise possible, mmh. Aux alentours du mois d'avril ou mai. Avril, mai, je crois. Bon. Donc, pour une première aventure, je ne peux pas me plaindre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a cette reprise. Mmh. Et puis, il y a Andy, un comédien, un acteur de la maison, qui en ce moment est en train de monter La Nuit des Rois, mmh. et qui m'a proposé le rôle de Antonio Ladan. Mmh. Alors, c'est un formidable rôle, très touchant, attachant. Alors, voyez-vous, qui, par exemple, pourrait être tout le contraire de papa. Parce que, justement, il est concret. Parce que, justement, il est vrai. Et alors, pour le coup, il pourrait presque paraître pour quelqu'un qui aide, en tout cas quelqu'un, à s'arracher des flots, des eaux. Et après le sauvetage, il suit cette personne jusqu'à l'accomplissement de leur destin respectif. C'est un rôle pas géant, pas grand. Il doit y avoir quatre scènes comme ça, mais des scènes fortes. Alors ça, je vais faire ça. Et puis voilà, donc on m'a proposé un autre texte, ça serait dans le monde peut-être de Vitesse, mais je sais pas encore précis, donc je sais pas très bien ce que c'est. Mm. Et voilà, donc, et sinon j'ai une période d'essai de 2 ans, mais l'année est bien pleine, voilà.
À la Comédie Française,
voilà.
Mm. Et à l'issue de la période d'essai de 2 ans,
voilà, se décide beaucoup de choses. S'ils ont d'autres rôles pour moi, ou si je devais m'en aller, enfin, se pose. Il y a un petit bilan qui se ferait naturellement et qui verrait un peu, voilà, d'autres possibilités. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, ça se passe bien.
Donc, vous, en fait, vous n'avez jamais manqué de travail, finalement, dans votre parcours. Vous n'avez pas connu les difficultés, justement, d'acteurs noirs pour lesquels, en France, il n'y a peut-être pas énormément de rôles. Comparé, je ne sais pas, à la Grande-Bretagne, on a l'impression que les rôles sont plus facilement distribués. Je veux dire, tous les rôles, c'est-à-dire pas uniquement des rôles de noirs qui sont donnés à des noirs, mais des rôles...
Oui, j'ai eu l'échappée belle peut-être quelque part, moi. C'est vrai que quelqu'un d'autre pourrait plus en parler, de manière plus en parler, et qui connaîtrait ce manque de rôle. Mais c'est vrai que quand on a eu la chance d'avoir rencontré Peter Brook, qui t'a donné des rôles, que ce soit classique ou moderne, où j'ai pu goûter un rôle d'Ariel dans la Tempête de Shakespeare, hein, des rôles comme ça, bon. Voilà, ou alors chez Gabriel Garand, ou aussi c'est le Théâtre International de Langue Française, donc voilà, il y a de formidables ouvertures comme ça. Finalement, l'arbre entre guillemets cache la forêt. C'est-à-dire que la réalité du fait que quelque part il y ait, à l'époque, c'est écrit dans les répertoires de telle sorte qu'il n'y a pas beaucoup de rôles pour les acteurs noirs, c'est tout à fait juste. Mais bon, moi, mon cas, il est particulier en ce sens que j'ai été arraché à l'école par des maisons de théâtre qui m'ont tout de suite donner des rôles intéressants à jouer, que ça soit dans le moderne ou dans le classique un peu, je dirais. Mais c'est vrai que la question demeure, et moi la seule réponse un tout petit peu que j'ai eue par rapport à ça, et Dieu seul sait que c'est pas tout, ça a été le travail, encore une fois. Et qu'à partir du moment où j'ai rencontré Peter et qu'il a peut-être vu des choses. Alors, des rôles beaucoup plus qui peuvent paraître éloignés de moi, et me les a offerts. Ou Gabriel Garand, pareil. Ou le fait qu'on m'amène là. Mais je pense aussi que c'est par rapport au travail. Et même si ça n'explique pas tout. Et que de plus en plus, il y a moyen d'ouvrir à toutes les diversités, parce que c'est ça qui fait un monde, comme les oiseaux du bon Dieu qui sont divers, je dirais.
C'est beau, comme on termine là-dessus.
Ok, très bien.